Chapitre 14. Sur le chemin de ronde du bastion, le roi Calvaire observait les opérations dans le port et il en était très satisfait. Les galères de corps avaient eu besoin de 4 jours seulement pour se préparer au raid contre Renda sur Bay. Rejointes par 3 autres navires, elles lèveraient l'ancre sous peu. L'expédition commerciale de corps avait en réalité été une mission d'espionnage, visant à évaluer les faiblesses d'Île Dakar, en vue d'une invasion, bien entendu. Cette fois, les ordres du capitaine étaient bien plus classiques. Si tout se passait comme Calvaire l'espérait, les Norukaïs sèmeraient la mort dans le maudit village de pêcheurs, puis ils captureraient autant d'esclaves que possible et iraient les vendre sur les marchés voisins. Sur les galères, Cor, Lars et Yorick se chargeraient de faire le tri, jetant à l'eau tous les prisonniers inaptes au travail. La mise à sac puis l'incendie de Renda sur Bay serait un avertissement très clair pour le reste du monde. Afin de mener sa tâche à bien, Cor disposerait de centaines de guerrières et de guerriers. Des combattants sans pitié, prêts à arracher à main nue le cœur de leurs adversaires. Des Norukaïs dignes de ce nom, quoi. Par temps clair, Calvaire distinguait clairement le port. Pour l'heure, les combattants étaient en train d'embarquer sur les galères à la proue en forme de tête de serpent. Bientôt, les navires équipés de longs avirons et de voiles bleues foncées, universellement connus et redoutés, terroriseraient la côte du nord au sud. Guidés par le dieu serpent, les Norukaïs, une fois encore, voleraient de triomphe en triomphe. Devant ce spectacle, Calvaire eut un pincement au cœur. Comme il aurait aimé partir avec ses braves. Durant sa jeunesse, le roi Supplice, son père, l'avait envoyé guerroyer un peu partout sur le continent. Pour l'endurcir, ou être débarrassé de lui s'il n'était pas assez bon et crevait sur un champ de bataille. Chez les Norukaïs, c'était le prix de l'échec. Sous une brise agréable, l'eau restait quasiment d'huile. Enclin à ne jamais trop s'éloigner du feu, Crayeux avait consenti, par une journée ensoleillée, à mettre le nez dehors. Malgré tout, il sautait sur place histoire de se réchauffer. « Renda sur Bay, Renda sur Bay, cesse de penser à cet endroit, mon roi !»«
Pourquoi le devrais-je ? Cor rasera cette maudite agglomération et nous n'aurons plus besoin de nous en inquiéter. »
Ouvrant la bouche, Calvaire délogea d'entre ses dents un morceau de rôti de Yaksen qui s'y était coincé. Décidément, cette viande avait bien meilleur goût que le poisson ou la chèvre. Une autre excellente raison de conquérir Île Dakar.
« Renda sur Bay, Renda sur Bay !»
chantonna Crayeux en se frottant les mains. Penché entre 2 merlons, il observait lui aussi le port. À la fois excité et maladroit, il faillit basculer dans le vide, mais se retint de justesse.
« La cible, c'est Île Dakar, roi Calvaire. Île Dakar, pas Renda sur Bay !» Île Dakar qui doit vivre un calvaire.
Après avoir rasé Renda sur Bay, Cor reviendra à temps pour partir en campagne contre Île Dakar. N'oublie pas que les galères sont encore en construction.
Renda sur Bay,
croassa Crayeux. Parfois, il ressemblait pour de bon à un corbeau. Pourtant, son visage à demi dévoré faisait plutôt penser à un cadavre victime de ses charognards ailés. Calvaire jugeait précieuses les visions du chaman. À part ça, il se serait bien passé de son apparence de cauchemar, de son hystérie incessante et de la bave qui écumait en permanence au coin de ses lèvres mutilées. Un ami, certes, mais pas toujours facile à assumer. Inspirant à plein poumon, le chaman leva la tête pour exposer son visage à la caresse du soleil. Même si Crayeux devait son pouvoir aux morsures des poissons friands de chair humaine, Calvaire en voulait toujours à son père. Trop jeune pour s'opposer au roi, il n'était pas assez lié à Crayeux en ce temps-là pour risquer sa vie afin de lui épargner un supplice. Cela dit, après l'avoir sorti du bassin, il avait enveloppé le malheureux dans de la toile de tente, décidé à prendre soin de lui. Les autres Norukaïs avaient supposé que l'albinos était mort. Discrètement, Calvaire l'avait porté dans un canot, puis il l'avait conduit jusqu'à un îlot, plutôt un gros rocher émergé, pour dire la vérité. Sur cette bande de pierre se dressait la maison de la vieille aveugle, une poissonnière à l'origine, qui tenait lieu de guérisseuse lorsque les incisions rituelles s'infectaient après la cérémonie d'initiation. Pour une raison inconnue, cette femme était experte en cicatrices. Usant de toute l'autorité acquise en côtoyant son père, Calvaire avait ordonné à la guérisseuse de sauver Crieux. Sans discuter, elle avait appliqué sur les plaies du futur chaman un onguent à base de guano et de foie de poisson qui empestait davantage que les feuillets d'une armée en campagne. Ensuite, elle avait bandé les blessures, transformant le pauvre Crieux en momie. Conscient de ne surtout pas devoir laisser deviner à Supplice ou à un autre Norukai qu'il tentait de sauver l'albinos, Calvaire, en secret, était allé chaque jour chez la guérisseuse afin de mesurer les progrès du patient. Une fois en mesure de parler, en tendant l'oreille on comprenait malgré sa diction bizarre, Crieux avait donné un premier conseil à son sauveur.
« Ne tue pas ton père maintenant. Quand l'heure sera venue, je te le dirai. Oui, moi, je saurai. »
Face à cette déclaration incongrue, Calvaire n'avait pas répondu, se contentant de sonder du regard la guérisseuse, qui s'était montrée assez avisée pour faire mine de n'avoir rien entendu. Jusque-là, Calvaire n'avait jamais envisagé un parricide. Vu la santé étincelante de Supplice, son futur règne lui semblait très éloigné dans l'avenir, et il s'y était résigné. Crieux voyait les choses autrement, et il semblait sûr de lui. Troublé, Calvaire avait cru dur comme fer que son ami lui indiquerait le meilleur moment pour abattre Supplice. Et il ne s'était pas trompé. Les années suivantes, il était allé sur toutes les îles qui composaient l'archipel des Norukai, et il avait écumé la côte que son peuple harcelait et privait de ses ressources. En manque de bois, les pillards forçaient leurs esclaves à dénuder des forêts entières. Dans les mines, ils les tuaient à la tâche afin qu'ils extraient un maximum de fer, d'or et d'argent. Depuis toujours, les ambitions de Calvaire ne se limitaient pas à ça. À présent, il approchait du but. Sur île Dakar, il était d'accord avec les prédictions de Crieux et l'analyse de Cor. Si les Norukai prenaient la cité de légende, ce serait un coup de poignard dans le cœur de l'ancien monde. Ensuite, les guerriers du dieu serpent rayonneraient dans toutes les directions, en amont et en aval du fleuve Chasse-Corbeau. Maître de l'estuaire, il dévasterait la côte jusqu'à Tanimura et même au-delà. Des millénaires plus tôt, les tribus des Norukai étaient célèbres pour leur vaillance et leur férocité. Hélas, elles se battaient trop souvent entre elles, sciant la branche où elles étaient perchées. Quand elles s'unissaient, elles semaient la terreur, mais pour être invincibles, il leur manquait un pouvoir central. À l'époque de Sulakan, créateur et maître d'un puissant empire, les irréductibles pillards étaient restés fidèles à leur réputation de tête brûlée. Refusant de jurer allégeance à l'empereur, ils avaient été frappés d'une sentence de mort collective. Dans le cadre de cette extermination, les impériaux les avaient rejetés à la mer. Toujours indomptables, ils s'étaient réfugiés dans l'archipel qu'ils n'avaient plus quitté depuis. Au terme d'un conflit meurtrier pour les deux camps, les Norukai survivants n'étaient plus qu'une poignée. Acharnés, ils avaient recouvré leur ancienne puissance au fil des siècles, ruminant en secret leur vengeance, mais le processus était bien trop lent. Pour l'accélérer, entre autres raisons, Calvaire avait renversé son père. Aujourd'hui, le crâne de Supplice, nettoyé de sa chair par les poissons, trônait au fond de l'aquarium où Crieux, dans la salle du trône, conservait ses spécimens marins favoris. Au-delà de la dévotion que le chaman manifestait à son sauveur, les deux hommes étaient devenus amis. De sa main, Calvaire avait abattu pas moins de 9 guerriers qui avaient commis l'erreur de se moquer de l'albinos. Après ça, plein de respect pour Calvaire, les autres Norukai, sans l'apprécier pour autant, n'avait plus cherché de noises à Crieux. Malgré la valeur qu'il accordait à ses visions, le roi n'emmenait jamais son ami en campagne. Crieux n'avait rien d'un combattant, et les futurs esclaves, Calvaire avait payé pour le savoir, se montraient parfois très violents. Chaque fois que son royal ami revenait d'un raid, souvent couvert de cicatrices, le chaman lui faisait la fête. Un jour, avant une expédition, il s'était montré inexplicablement terrifié. Avide d'action, Calvaire entendait accompagner 4 galères chargées de mettre à sac un village de mineurs que les Norukai épargnaient depuis 15 ans. Un calcul délibéré, bien entendu. Après si longtemps, la vigilance des aînés se serait relâchée et les enfants laissés en vie seraient devenus de solides esclaves potentiels. Bref, une opération de routine. Pourtant, Crieux avait imploré son ami de ne pas partir. Plus hystérique que jamais, il s'était quasiment roulé par terre. Même s'il ne l'aurait pas reconnu sous la torture, Calvaire avait eu peur. Ses compagnons s'étaient étonnés qu'il ne vienne pas, mais après tout, il ne leur devait pas d'explication. Quand Atta, une terrible guerrière, l'avait moqué en public, Il s'était vengé en lui cassant le nez et en faisant exploser ses incisions rituelles. Du coup, elle avait également dû renoncer à partir. Au milieu de la traversée, une formidable tempête avait dévasté l'expédition. Trois navires ayant coulé, le quatrième, salement amoché, avait tenté de retourner au bercail, mais il était tombé entre les mains des Selkas. Après l'attaque de ces monstres sous-marins, on avait retrouvé trois survivants dans la carcasse calcinée de la galère. Si Calvert n'avait pas écouté le chaman, son règne se serait sûrement arrêté là. Depuis, même s'il ne comprenait pas toujours le pourquoi de ces oracles, le roi n'était plus jamais allé contre l'avis de son conseiller. Les sonneries de cloches dans le port arrachèrent Calvert à ses souvenirs. Leurs voiles sombres levées, les six galères, également propulsées par de puissants rameurs, fendaient les flots en direction du large. Tant qu'elles seraient en vue, les cloches continueraient de les saluer.
« Renda sur baie, Renda sur baie !»
couina Crieux.
« Occupe-toi plutôt d'Ildakar et du reste du monde, roi Calvert. Prépare leur calvaire !»«
D'abord, je lève ma flotte. Pas d'invasion avant que tout soit prêt. Alors notre armada frappera comme une meute de requins. »
Alors que l'expédition de Kor cinglait vers l'aventure et la gloire, Calvert balaya l'archipel du regard. Sur presque toutes les îles séparées par des bras de mer souvent à peine navigables, des chantiers navals avaient poussé comme des champignons. Alimentés par le bois volé sur le continent, ils fabriquaient la plus grande flotte de galères que le monde ait connue. Placés sous les ordres d'un maître sculpteur, des centaines d'artisans jouaient du ciseau à bois pour modeler des proues rigoureusement identiques. Une représentation du dieu serpent qui guiderait les Norukai jusqu'à la gloire. Ces deux dernières semaines, 30 bateaux de guerre avaient été mis à l'eau. 50 autres suivraient bientôt et ça ne s'arrêterait pas là. De sa position, Calvert captait les lointains échos d'une activité frénétique. Les jours de beau temps omettaient bien entendu les bouchées doubles. Supplice ayant attendu trop longtemps avant de lancer l'assaut contre le continent, Calvert avait perdu patience. Quand le signal de Crieux était enfin venu, il n'avait pas hésité une seconde. Défiant son père, il avait tué sans remords. Si l'ancien roi n'avait pas su mener les Norukai au triomphe, le nouveau s'en chargerait. Au vu des galères flambant neuves qui attendaient partout, Calvert comprit que l'aventure commencerait bientôt.
« Pour mes ennemis, ce sera un calvaire !»
marmonna-t-il. Louis Fine, Crieux sourit aux anges.